commencé ma vie active, professionnelle, comme interprète de conférences internationales, ce qui m'a donné l'occasion d'abord de participer à toutes les grandes réunions internationales depuis plus de 60 ans, de connaître tous les grands hommes politiques qui se sont succédés à cette époque dans différents pays, d'assister aux discussions sur les sujets les plus divers à tous les niveaux possibles et imaginables, également de voyager dans à peu près tous les pays du monde où se réunissaient ces conférences. C'est ainsi que ma vie s'est formée. Et puis, à un certain moment, j'ai eu l'impression que ces discussions internationales sur des questions politiques, économiques et autres n'aboutissaient pas à grand-chose pour toutes sortes de raisons. Et ça m'a amené à m'intéresser de plus en plus à d'autres aspects des problèmes qui se posent, en particulier l'attitude de l'individu envers lui-même et l'attitude de l'individu envers la société, et qui sont à la base évidemment des relations entre les groupes humains, entre les différents pays. Alors ça m'a conduit à m'intéresser aux religions, naturellement, qui sont la base fondamentale, la mienne d'abord, puisque je suis chrétien, et puis ensuite d'autres religions. La raison principale du fait que je me sois intéressé à d'autres, c'était que je n'ai guère apprécié le complexe de supériorité qu'avaient les chrétiens, qui se considéraient comme possédant à eux seuls la vérité, estimant que tous les autres étaient dans l'erreur. J'ai eu beaucoup de peine à admettre qu'il y avait sur Terre une race privilégiée et que les autres étaient, de par leur naissance ou de par leur nature, défavorisés. Alors j'ai voulu voir ce qu'enseignaient les autres religions, quels étaient leurs modes, quels étaient leurs idéaux, quelles étaient leurs attitudes entre elles, etc. Je me suis d'abord tourné vers le bouddhisme, que j'ai étudié pas mal dans les textes, et puis ensuite j'ai fait le tour d'à peu près tous les pays bouddhistes dans le monde. Et je dois dire que j'ai été très déçu parce que j'ai constaté qu'ils avaient exactement le même complexe de supériorité que nous, et entre eux et vis-à-vis des autres. Et puis je suis tombé, sans trop le chercher, sur l'Inde et sur l'hindouisme, et qui est la première des religions que j'ai apportées où j'ai constaté que ce complexe de supériorité n'existait pas. Et qu'il y avait non seulement chez ces gens-là une tolérance extraordinaire entre eux et envers les autres, mais beaucoup plus que cela, un respect des autres religions, un respect des autres croyances, etc. Alors ça m'a tout de suite accroché. Et puis il s'est trouvé que des circonstances, que je ne m'expliquais pas d'ailleurs, m'ont amené auprès d'un très grand sage, Sri Aurobindo, qu'apparemment beaucoup de gens au Québec connaissent, j'ai été surpris de le constater, et qui alors lui m'a tout de suite passionné. C'était le premier être que je rencontrais, j'en avais rencontré beaucoup jusque-là, qui unissait à une recherche spirituelle, quel que soit le sens qu'on puisse mettre sur ce mot spirituel, qu'on emploie un peu à tort et à travers, une recherche spirituelle intense, profonde, et en même temps une logique, un bon sens qui répondait à mes exigences de cartésien. Alors je lui ai demandé la permission de rester auprès de lui. Finalement, il m'a accepté comme disciple. Et c'est cela qui a été le point de départ, pour ainsi dire, de toute mon activité qui a suivi après cela pendant à peu près 45 ans. En même temps que je séjournais auprès de lui, sur son conseil d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres grands sages de l'Inde. Ça a été un privilège extraordinaire pour moi, que je n'ai pas encore compris d'ailleurs, dont je n'ai pas compris la raison. C'est que j'ai eu cet extraordinaire privilège de m'asseoir aux pieds de tous les grands sages de l'Inde de la première moitié du XXe siècle, et de grands sages d'ailleurs d'autres religions aussi, de recueillir leurs enseignements et d'être non seulement autorisé, mais invité par eux à faire connaître cet enseignement en Europe. Et c'est cela en réalité la mission que m'a confiée mon maître, Sri Aurobindo. Et c'est à cela que je consacre une partie de plus en plus grande de mon activité depuis cette époque-là. Voilà, en gros, comment je peux me présenter.
Parce que c'est le rêve de plusieurs personnes que vous avez réalisé dans votre vie. Lorsque vous avez parlé de grands sages, on sait que pour être un prêtre, on n'a qu'à faire certaines études et on devient prêtre, deva ou swami, etc. Mais un sage, ça ne s'apprend pas dans des livres, ça ne s'apprend pas dans une école ou dans une religion. Et quelle serait pour vous la définition de ce qu'est un grand sage? Vous nous avez dit, vous avez rencontré des grands sages. Et ça, c'est de différents mouvements, de différentes religions. Alors, c'est quoi un grand sage pour vous?
N'est-ce pas, comme vous le dites vous-même très justement, les étiquettes que l'on porte, que l'on soit prêtre ou soit mis autre chose, ça n'a aucun intérêt, parce que ça ne prouve absolument rien. La religion à laquelle on s'attache, ou l'absence de religion, il y a des grands sages parmi les athées, tout aussi bien que parmi les gens très religieux, cette étiquette-là n'a non plus aucune importance. Et dans l'Inde en particulier, qui est le pays que j'ai le plus étudié, on ne demande pas quels sont vos diplômes, ou quelles sont vos ordinations, ou à quelle secte appartenez-vous. On demande quelle est votre expérience. Quelle expérience personnelle avez-vous? C'est-à-dire l'expérience, comme diraient les hindous, je ne sais pas si la formule est très claire pour nous, d'être passé sur le plan de conscience suprême auquel l'homme est capable d'atteindre. Alors c'est une chose qu'il est extrêmement difficile de définir, probablement impossible de décrire, mais ce sont des gens, ceux que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui, évidemment, sont parvenus à des plans de conscience tout à fait différents de ceux dont nous avons l'expérience, et qui, du fait d'y être passés, d'y retourner à l'occasion, quand ils en ont envie d'ailleurs, ou même d'y être d'une façon plus ou moins permanente, voit le monde, voit l'homme, voit les rapports entre humains, voit toute le fonctionnement de l'univers, etc., d'une façon tout à fait différente de la nôtre, où chaque chose se situe à sa place, où rien ne les étonne plus, rien ne les afflige plus, parce qu'ils comprennent, tout ce qui se passe, et qui manifestent cette sagesse d'un certain nombre de façons différentes. Visiblement, par exemple, ce sont des gens dont le regard est très différent de celui des hommes ordinaires. On ne peut pas définir une différence de regard, ce n'est pas possible, on ne peut pas expliquer la différence entre le regard d'une vache et le regard d'un homme, mais vous savez très bien le reconnaître, vous ne les confondez pas. Alors eux, c'est aussi un regard d'une nature différente, que l'on saisit tout de suite quand on les voit. Et puis ce sont des gens qui ont une sorte d'omniscience, et ce sont des gens qui ont de très grands pouvoirs, et qui peuvent par exemple vous donner une certaine connaissance, vous transmettre une certaine dévotion, vous orienter sur la voie sur laquelle ils estiment que vous devriez aller, ou sur laquelle vous vous êtes déjà engagé, et qui vous facilite l'évolution sur cette voie, et qui vous aide constamment, d'une façon souvent incompréhensible pour nous, souvent indiscernable même, mais que l'on ressent. Et c'est l'expérience que j'ai eue auprès de ceux auprès de qui j'ai eu le privilège de m'asseoir.
Je me demanderais, est-ce que tant de paroles dans les différents mouvements religieux ou spirituels ou ésotériques, tant de mots, tant d'écritures, tant de livres, tant de doctrines, n'éloignent-ils pas l'homme de l'essentiel?
N'est-ce pas, l'abondance de ces livres, de ces paroles, en soi n'est pas un mal, dans la mesure où plus il y en a, plus chacun a des chances de trouver quelque chose qui lui convient. C'est un des grands enseignements que j'ai reçus de l'Inde, c'est qu'il y a autant de voies d'évolution qu'il y a d'individus. Il n'y a pas deux individus identiques, il n'y a pas deux individus par conséquent à qui la même voie convienne. L'essentiel, c'est de trouver sa voie et de s'y tenir. Et alors, plus il y a de voies disponibles, plus chacun a de chances d'en trouver une qui lui convienne. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, selon ces grands sages, c'est de papillonner, de sauter d'un enseignement à un autre, parce que là, on perd son temps et on n'avance pas du tout. La comparaison qu'il dit, c'est si vous essayez de suivre plusieurs chemins à la fois, eh bien vous n'allez nulle part. Vous choisissez le chemin, même sur le plan purement matériel, sur le plan géographique, si vous voulez, ou cartographique. Vous choisissez le chemin sur lequel vous devez avancer, puis vous le suivez. Mais si vous passez votre temps à revenir en arrière pour en essayer un autre, eh bien vous finissez par n'aller nulle part. Alors l'abondance de ces voies, dont chacune s'accompagne d'une certaine littérature, c'est naturel, l'abondance de ces voies est une bonne chose. Mais ce qui est une mauvaise chose, c'est de s'y égarer, de se disperser. Et je crois par conséquent que la multiplicité de ces groupes, de ces sectes, est une excellente chose. De même que, d'ailleurs, la multiplicité des sectes dans le christianisme, la multiplicité des sectes dans l'islam, la multiplicité des sectes dans le bouddhisme, etc., est aussi une excellente chose. Parce que plus il y a de sectes, je m'excuse du terme que les catholiques n'apprécient pas toujours, mais enfin, ça correspond à la réalité, plus il y a de sectes dans le christianisme, plus chaque chrétien a de chances d'en trouver une qui lui convient et d'utiliser au mieux l'enseignement de l'évangile. Par conséquent, c'est une richesse. Mais le grand danger, c'est que ceux qui suivent une de ces voies, une de ces doctrines, une de ces sectes, estiment que c'est la seule vraie. Et malheureusement, il faut reconnaître que parmi tous ces groupes qui existent, je n'ai pas pu le constater au Québec, je n'y suis pas depuis assez longtemps, mais dans les pays que je connais bien, eh bien, chacune de ces sectes méprise les autres. C'est la plupart du temps le cas. Et plus deux sectes se ressemblent, plus elles sont d'hostilité l'une envers l'autre. Alors c'est ça un gros danger qui est sans doute inévitable dans la mesure où cette multiplicité de sectes ou de groupes ou de doctrines existe. C'est ça le gros danger. Et le travail que je fais moi-même personnellement, parce que je circule dans beaucoup de ces groupes, qui sont très différents, c'est de souligner, enfin c'est une des choses que je fais, c'est de souligner que si j'apprécie beaucoup leur voie, la voie qu'ils suivent, le groupe qu'ils ont constitué, les théories qu'ils soutiennent, les pratiques auxquelles ils se livrent, eh bien, ce n'est pas une raison pour que je n'apprécie pas tout autant les enseignements d'autres groupes, d'autres sectes, et toujours je les encourage à admettre cette vérité